Ce projet de vie solidaire est donc le thème central de notre projet. Il s'accompagne pour nous de la nécessité de faire participer davantage de gens, ceux qui le souhaitent du moins bien sûr, aux décisions importantes du village. Une municipalité donc ouverte et à l'écoute. C'est ce que nous appelons la démocratie participative, à proposer, à adapter ici même dans notre village. C'est une méthode de travail municipale et c'est notre thème moteur. Donc, la solidarité, cœur de notre projet, et la démocratie participative, moteur de notre projet. Avec l'éducation comme une priorité, une culture à développer en ouverture, le sens de la politique comme vie de la cité à réhabiliter, l'écologie à déployer, l'économie à davantage décliner, une sécurité repensée en solidarité et un urbanisme respectueux du rural qui privilégie une arrivée très progressive de nouveaux habitants, condition d'une intégration réussie. C'est donc un programme à 9 points que nous allons maintenant vous présenter. Par souci d'organisation et de clarté, nous avons décidé donc d'un animateur pour cette réunion. Et c'est ainsi que je vais passer la parole à Félix.
Bonjour à tout le monde. Juste avant de poursuivre, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que nous sommes compréhensibles? Parce que parfois il peut y avoir des difficultés de son. Donc, bonjour. Peut-être que, avant de poursuivre, il vaudrait mieux que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Nous ne sommes pas nécessairement tous connus dans le village. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous présentions à vous rapidement, très rapidement, les uns après les autres. Alors, Manuel, tu as le micro.
Bonsoir à tous. Manuel Bechtel, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. J'ai la chance de vivre à Montpérou depuis 10 ans. Et je suis convaincu que c'est le moment pour Montpérou de faire la transition vers la démocratie participative.
Il y a 6 ans, j'ai découvert Montpérou. Venir ici et vivre ma vie, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Jamais je dors Montpérou. Mon nom est sur la liste parce que je crois à la démocratie, à l'élection des nouvelles personnes au conseil, à une nouvelle voix et une nouvelle idée, et à la gouvernance la plus meilleure possible pour mon père. Excusez mon accent. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Mylène Ritz. Je suis originaire de l'Est de la France, mais montpérousienne de cœur depuis bientôt plus de 30 ans. J'ai été accueillie très rapidement dans ce village et ça m'a permis avec plaisir de participer à des activités sportives et culturelles. Et donc j'ai décidé d'accompagner cette liste afin d'améliorer à mon tour, à notre tour, la qualité de vie à tous. Rappelez-vous.
Bonjour à tous, Christian Ligonnière. Je suis retraité de la fonction publique. J'habite à Montpérou depuis presque 35 ans. Je suis président du foyer rural, président de l'Union départementale des foyers ruraux. Et moi aussi, je rejoins cette liste parce que bon, le thème démocratie participative me va très bien. L'écologie, ça me va très bien aussi. Et le reste aussi, d'ailleurs. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Je suis Isabella Stievano, auxiliaire de puriculture. J'habite à Montpérou avec ma famille depuis 10 ans. Je ne suis pas née ici, mais j'ai grandi d'une certaine façon à Montpérou. Je dois beaucoup à ce village, à ses habitants. Et alors, ma démarche ce soir, c'est de donner un peu d'attention et un petit peu de mon énergie et goût tout partage. Merci.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Gabriel. Je suis un Montpérousien depuis tout petit. Et pourquoi je me suis engagé sur cette liste et pourquoi je suis là ce soir, c'était pour offrir du choix aux Montpellierousiens. Et il me semble que les thèmes de cette liste, qui sont l'écologie, les démocraties participatives, la culture et le social, sont très importants et pourraient apporter un renouveau à Montpellier.
Bonsoir, je suis Hélène Boyer, éducatrice de jeunes enfants. Je travaille en maison d'assistante maternelle sur Vallecas. Je suis maman de deux enfants, Chiara scolarisée au collège et Thiago en CM2 dans la belle école de Montpellier. Je me suis pas mal investie sur l'école, d'abord en tant que représentante des parents d'élèves et ensuite au sein de l'association des Cagaroulettes que j'ai aidé à créer. Et je souhaite maintenant m'investir sur une vie démocratique et citoyenne à Montpellier. Et j'ai rejoint cette liste pour défendre voilà, des valeurs qui me tiennent à cœur.
Bonjour, je suis Lucie Anton-Raymond, je suis agent SNCF, je suis la maman d'un adolescent de 12 ans qui a fait son CM2 à Montpellier parce qu'on est arrivé ici il y a 3 ans et demi. Et je me suis rendu compte en fait que c'est en arrivant ici que j'ai eu un déclic sur l'environnement, sur l'écologie, et c'est vraiment en vivant au village que j'ai entamé ma démarche de réduction de mes déchets et une démarche aussi de formation à la médecine douce, la médecine naturelle. Et donc j'ai rejoint cette liste en fait parce que je partage les valeurs de solidarité et de convivialité.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Evie, je suis retraitée et à Montpellier depuis 5 ans. J'ai choisi ce village parce que je le trouve charmant, il est bien situé, entouré de nature, et il a gardé une certaine intégrité que j'apprécie. Et j'ai mis un certain temps avant de rencontrer les gens du village, mais ça s'est fait par le biais des associations. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise et dans l'intégration et le mieux vivre avec les habitants. Et c'est pour ça que j'ai rejoint cette liste pour démocratie participative, pour justement échanger encore plus avec les habitants, partager des centres d'intérêt et des savoir-faire, et mettre en place des actions solidaire pour le bien commun. Merci.
Bonsoir à tous. Donc moi je suis peut-être le seul à avoir un papier, je ne sais pas. Bon. Je suis un peu ému devant vous, c'est pour ça que j'ai préparé un petit mot. Donc je m'appelle Antoine Librano, j'habite à Montpellier depuis 18 ans et... Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Et je suis retraité de l'éducation nationale depuis le mois de septembre. Je rejoins la liste Montpellier pour tous pour son dynamisme, ses valeurs humaines, son orientation écologique et pour sa solidarité pour tous les Montpellierousiens, toutes générations confondues. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore qui vont être développées ce soir, je donnerai avec plaisir de mon temps pour Montpellier.
Oui, bonsoir. Bon, moi je fais partie des anciens, donc Gilbert Kiffer, du Barry. Alors là, c'est vrai qu'à l'époque, quand on est arrivé au Barry, il n'y avait que des ruines. Alors ça a changé depuis, c'est bien. Alors, deux parcours. Un parcours professionnel, un parcours d'élu. Parcours professionnel, j'ai commencé comme mineur. À 14 ans, on était à Protinineuve. Et puis un petit peu l'école des mines. Et puis, voilà, ça fermait. Un engagement syndical. Tout a fermé, bien sûr. Donc c'est dortoir maintenant, il y a à peu près 60 000 personnes qui vont travailler au Luxembourg. Alors bon, voilà, ça a changé de coin. Ensuite, concours administratif, donc j'étais dans l'éducation nationale. Ensuite, je me suis situé par rapport aux anciens, j'étais directeur d'une maison de retraite de personnes âgées dépendantes. Ensuite, le parcours a été tout à fait différent. C'est-à-dire, je me suis retrouvé régisseur, directeur d'une régie de quartier dans les quartiers très difficiles du côté de Metz, là-haut. Et puis, bon, il était temps de venir au Barry, n'est-ce pas, pour mettre une pierre sur l'autre et faire en sorte que le Barry, ça devient quelque chose de chouette. Ensuite, le parcours d'élu. Alors, parcours d'élu, bon, j'étais adjoint au maire, ensuite premier adjoint, et j'étais représentant d'une syndicat intercommunal, donc j'étais président de 6 communes. Ça se situe dans les communes minières, hein. Et effectivement, bon, bah, il y avait, si vous voulez, une ambiance qui était, et un état d'esprit et une atmosphère qui était effectivement très différente de Montpérou. Mais enfin, depuis le temps que je suis à Montpérou, j'ai eu le temps quand même de m'adapter et puis de bien comprendre les mentalités. Bon, une équipe là, que je connais bien, donc avec lesquelles je pense on pourrait faire d'excellents travail. Voilà.
Merci. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Martinez. Voilà, moi je ne suis pas un retraité de l'éducation nationale, je cherche à rentrer dans l'éducation nationale. Je prépare le concours de professeur documentaliste. Et je m'intéresse particulièrement aux aspects éducatifs de la société de l'information, du numérique, ce qu'on appelle le numérique, les réseaux sociaux. Et je suis pour ça très intéressé par le projet de mon ami Félix autour du numérique. Et j'ai choisi de m'investir dans le groupe de travail des questions sociales à Montpérou.
Bonjour, donc Félix Louchka. Alors je suis arrivé à Montpérou pour quelques mois. Mais c'était il y a 30 ans. J'ai, à l'époque, désolé de plomber un peu l'ambiance, mais c'était suite au décès de mon père. J'ai été accueilli par une famille à laquelle je ne rendrai jamais suffisamment hommage, c'est la famille Valderon, qui m'a accueilli alors que je n'avais rien. Par la suite, Montpérou, j'ai été accueilli par les Montpérousiens qui m'ont fourni du travail. J'ai été journalier à la vigne pendant des années, puis sous contrat fixe, dans une cave que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît. Et puis, la vie a fait que, un peu de travail aussi, soyons sérieux, que j'ai été professeur de français ensuite au lycée de Clermont, avant d'être recruté il y a 7 ans à l'université Paul Valéry. Et en fait, si je suis resté ici depuis 30 ans, c'est que j'ai rencontré une fille du pays. Alors, si vous voulez savoir qui c'est, un indice, elle figure parmi les personnes qui sont devant vous.
Donc, je suis Françoise Louchka, originaire de Montpérou, où vivent donc mes parents, Pierrot et Ginette Cuginier. J'ai toujours été incitée en fait à comprendre le village comme une grande famille où il fallait toujours s'entendre. Ayant vécu une expérience collective très forte au travers de l'amicale Meillade, un des quartiers de Montpérou, j'ai compris très tôt que ce sont les moments forts et finalement ce qu'on fait ensemble qui nous soudent. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, Simon qui a 13 ans depuis dimanche et Nicolas qui a 10 ans. J'ai une expérience d'élu et donc de responsable CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, pardon. Et si j'ai accepté de représenter aujourd'hui ce mouvement, c'est pour faire le trait d'union entre le village où j'ai toujours vécu et je pense maintenant un village qui est à inventer en fait à partir de maintenant pour vivre toujours bien.
Donc voilà pour les présentations. Alors on va juste vous rappeler un petit peu le menu de la première partie de la soirée. Donc nous allons vous présenter un programme qui est autour de 9 axes principaux. Alors ce sont des axes, vous verrez, il y a des échos, ce ne sont pas des répétitions, ce sont des échos entre les axes, parce que finalement le tout comme Montpérou avec ses différents hameaux, est un village, le tout forme un projet. Et les éléments de ce projet sont inextricablement liés. Pardon. Donc nous parlerons d'abord de démocratie, pour une démocratie participative et éclairée, du social à travers l'axe pour un lien social renouvelé, l'éducation pour une éducation de qualité pour nos enfants, voilà, ça ira mieux comme ça, de culture, donc pour une culture ouverte et surtout qui va à la rencontre des gens. Vous verrez les propositions intéressantes à ce niveau-là. Un questionnement aussi sur l'ouverture au monde, parce que le monde autour de nous bouge quelque peu. L'écologie dans laquelle nous avons des projets inventifs, mais néanmoins réalistes. Une économie qui est elle aussi résolument tournée vers l'avenir. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. La sécurité, Françoise l'a très bien dit, repensée en termes de solidarité et non plus simplement en termes de répression. Et enfin, nous terminerons
par un urbanisme qui respecte l'identité du village. Alors pour la première partie, la démocratie participative et éclairée, c'est Manuel qui va vous présenter cette partie.
Merci Félix.
Bien, donc quel est l'objectif de la démocratie participative? L'idée, c'est d'inciter tous les habitants à participer aux décisions importantes qui concernent le village. De cette manière, les différentes options peuvent être discutées collectivement et les décisions peuvent être prises en s'appuyant sur les idées et les compétences des uns et des autres. Ainsi, on peut parler aussi de démocratie éclairée. Donc, on a choisi de qualifier la démocratie à la fois de participative et d'éclairée. Concrètement, comment faire? En organisant des débats publics. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, on peut dire plus précisément quand même que l'idée, c'est que pour chaque question importante, on organiserait deux débats publics. Un débat pour se familiariser, découvrir les enjeux importants de la question, et un autre débat public pour délibérer. Et entre-temps, il y aurait une commission citoyenne qui explore de manière approfondie les différentes options possibles. Oui, mais comment déterminer les questions importantes? Pour cela, nous proposons de créer des conseils de quartier et un conseil des ados. Et c'est un moyen de faire s'exprimer les besoins, les problèmes, les idées des différents habitants. En ce sens, nous proposons également de mettre en place une permanence hebdomadaire avec un élu et puis de créer une plateforme numérique. Alors, pour avoir une démocratie qui soit éclairée, il faut aussi à l'information. Et nous proposons donc d'enregistrer, de mettre en ligne tous les échanges des conseils municipaux, de telle sorte qu'on puisse vraiment connaître les positions et les arguments des élus et pas simplement les décisions. Et par ailleurs, il nous semble important aussi que les élus rendent compte chaque année de l'action publique devant les habitants, à la fois pour justifier les décisions, les actions, mais également pour pouvoir échanger et répondre aux questions des habitants. Et j'ajouterai pour terminer qu'on est bien conscient que la transition vers une démocratie participative ne va pas de soi. Donc on va devoir s'appuyer sur des formations et on propose également d'échanger avec les municipalités qui sont dans une même démarche et avec qui on pourra faire un échange d'expériences.
Merci beaucoup Manuel. Donc voici pour la partie démocratie participative et éclairée. Et maintenant nous allons vous exposer l'axe du lien social renouvelé. Et c'est Françoise qui va vous le présenter.
Je ne sais plus si je vous ai dit que j'étais assistante sociale à la mutualité sociale agricole. Vous comprendrez pourquoi le social revient en boucle. Donc, pour un lien social renouvelé, comme je vous le disais donc en introduction, sans un lien fort entre nous, il nous semble très difficile d'avancer. Alors, pour nous rapprocher, pour garder un village vivant, nous proposons que dans chaque quartier, toutes les personnes qui le souhaitent, bien sûr, déjà impliquées naturellement, nous servent de relais. Pour maintenir le lien avec les anciens, pour accueillir les nouveaux arrivants, pour inciter à la solidarité de tous les jours. C'est ce que nous appellerons les personnes ressources. Sur le village, plus globalement, nous serions intéressés aussi pour créer un lieu ressource, que nous appellerions une ressourcerie. On en entend parler un petit peu déjà sur d'autres endroits, on ne l'a pas inventé. Il s'agit en fait de mettre en place un échange de biens et de services suivant les besoins des habitants, afin que les gens se rendent service en fait mutuellement. En fait, il s'agit d'organiser en quelque sorte la solidarité. On part du principe qu'elle s'est un petit peu perdue au fil du temps. Cela permettrait de donner, de recevoir, de passer du temps ensemble et finalement donc à travers tout ça de se connaître.
Cela ne doit pas faire oublier que dans la commune, il y a donc un centre communal d'action sociale qui est plus spécifiquement en fait à l'adresse des personnes les plus fragilisées, les plus en difficulté. Il nous paraît important de le soutenir, ce CCAS, beaucoup plus. Donc nous proposons véritablement un budget considérablement augmenté. Personne n'est à l'abri effectivement de devoir un jour demander de l'aide. Et la responsabilité municipale est de permettre cette solidarité-là. La ressourcerie dont nous avons parlé juste avant permettrait également de prendre le relais de certaines aides du CCAS, permettant ainsi aux personnes ou aux familles en difficulté d'accéder à des biens et des services au moindre coût. Dans un autre registre, mais toujours sur le lien social, il nous semble important de créer une synergie entre les associations qui sont nombreuses sur Montpérou, créer un lien interassociatif. Ce lien permettrait, nous le pensons du moins, de proposer une journée des associations, on va dire, peut-être un peu plus dynamique encore, et de pouvoir créer ensemble, les associations, des événements porteurs pour le village. Et également permettrait, pourquoi pas, des passerelles entre les activités. On a parlé d'un village vivant. Cela signifie aussi pour nous maintenir les lieux et les moments forts de cette vie au village. Nous aimerions insister sur le maintien des salles des fêtes au centre du village, le maintien des festivités dans tous les quartiers, le maintien du stade de football actuel, là où il est. N'éloignons pas la vie du village au nom de la tranquillité. Nous pensons que pour vivre ensemble et être un village, il faut parler de tolérance et accepter certains principes collectifs. Bien entendu, il ne s'agit pas d'éviter les compromis, il faut nécessairement passer par des compromis acceptables pour tous. Dans un autre registre d'idées, en fait, le marché hebdomadaire nous paraît être un bon moyen également de vivre convivialement. Nous proposons de le repenser assez complètement en lien avec les commerçants du village, réunis, en nous appuyant sur leur avis, car le marché nous semble complémentaire de ce que les commerçants apportent sur le village. Pourquoi ne pas aller aussi plus loin qu'un marché et créer du moins ponctuellement de petits événements autour, concerts, lectures, rencontres des anciens, des enfants, repas partagés. Dernier point, nous avons l'intention de proposer de créer une maison de retraite sur un modèle de maison d'accueil rurale pour personnes âgées, pour permettre aux anciens en fait de continuer de vivre au village dans leur environnement naturel, en collectivité quand ils ne peuvent plus rester chez eux. Ce type de structure sociale est respectueuse de la vie des anciens et permettrait en fait de poursuivre un lien intergénérationnel qui nous semble très important à signifier à nos plus jeunes. Voilà pour le lien social.
Merci beaucoup. Nous passons à l'axe suivant qui est celui d'une éducation de qualité et que Hélène va nous présenter, dont Hélène va nous présenter les détails.
Les enfants de Montpérou bénéficient d'un cadre très privilégié au quotidien. Ils ont une belle école, une école chaleureuse, accueillante. Et surtout, ils sont entourés d'équipes éducatives très dynamiques. Je pense ici à l'équipe d'enseignantes. Je pense que toutes les écoles ne bénéficient pas d'enseignantes aussi motivées pour mettre en place des projets extrascolaires d'aussi belle qualité. Je pense à l'équipe d'animation qui encadre nos enfants tous les jours sur les temps périscolaires, parfois jusqu'à 120 enfants sur les temps cantines, c'est quand même conséquent. Et je pense aux parents d'élèves, à la fois les représentants des parents d'élèves qui font depuis plusieurs années un super travail de communication et à l'association des Cagarolettes qui ne ménage pas ses efforts pour mettre en place tout un tas d'initiatives pour récolter des fonds et soutenir les projets de l'école. C'est pour toutes ces raisons et parce que les enfants de Montpérou le méritent bien que nous estimons que la municipalité doit faire de l'éducation une priorité. Alors, de quelle manière? Notre première action serait d'évaluer avec les enseignants leurs besoins, leurs attentes, et de définir un budget qui leur permette d'envisager sérieusement des investissements dans du matériel pédagogique de qualité. On pense à la fois du matériel informatique, du matériel de science, du matériel d'art plastique, sportif, du mobilier modulable, mais un budget qui leur permette aussi d'envisager de faire davantage de sorties scolaires, à la fois sur le plan sportif et culturel, sans que le coût du transport soit systématiquement un frein. Toujours dans cette optique d'amélioration, de perfectionnement du cadre pédagogique d'apprentissage de nos enfants, nous souhaiterions poursuivre les travaux de rénovation des classes élémentaires qui ont déjà été entamés par la municipalité, et notamment sur le plan de l'isolation thermique et en installant des climatisations de sorte à offrir aux enfants et aux enseignants des bonnes conditions de travail lors des épisodes caniculaires qui risquent de se répéter. Concernant le périscolaire, on souhaite soutenir activement l'équipe du périscolaire dans la mise en place de partenariats avec des intervenants extérieurs, des bénévoles, avec les associations du village, les associations du territoire, de sorte à proposer à tous les enfants de Montpérou des activités nouvelles, riches et variées. La particularité des temps périscolaires est de pouvoir s'adresser à tous les enfants de manière non discriminatoire. Il nous semble important que la municipalité soit aux côtés des animateurs pour dynamiser ces temps périscolaires. Concernant le périscolaire, toujours, on souhaite repenser le fonctionnement et les modalités d'inscription de sorte à ce que ce fonctionnement soit respectueux du travail mené par les animateurs, qu'il soit respectueux également de l'intérêt de l'enfant sur ces temps-là, mais également plus respectueux des contraintes parentales de tous les parents de Montpérou. Enfin, dernier défi, pas des moindres, pouvoir offrir à Montpérou, à l'école de Montpérou, une cantine bio et locale. C'est un projet sur lequel les habitants de Montpérou pourront s'investir dans le cadre de la démocratie participative. On a bien conscience que c'est un défi ambitieux, complexe, qui prendra du temps et qui nécessitera de mettre en place des partenariats rigoureux, mais d'autres communes l'ont fait, de plus en plus de communes le font. On saura s'inspirer de leur retour d'expérience et nous pensons, notre liste pense qu'il est essentiel de relever ce défi aujourd'hui pour la santé de nos enfants, la santé de notre territoire, de notre environnement, et également pour soutenir l'agriculture locale. Et l'avantage de ce projet, c'est qu'il va de pair avec une vraie démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, démarche déjà engagée par les animateurs sur les temps comptines, et une démarche de réduction des déchets, ce qui est quand même des thèmes extrêmement importants dans notre société actuellement.
Merci beaucoup, Hélène. Nous en arrivons maintenant à la partie culture, pour une culture qui va à la rencontre des gens, qui vous sera présentée par Isabella et Gabriel, auxquels je tends le micro.
Merci. Alors, comme nous le savons tous, la culture est très importante pour un village. Elle apporte du dynamisme, de l'animation, mais elle est aussi vecteur d'un fort lien social. Et la culture est aussi une... La culture est aussi une réflexion et une ouverture sur notre monde. Et c'est pourquoi nous voulons pour Montpérou oser une culture résolument ouverte, de proximité et dans le partage. Et donc je vais laisser la parole à Isabella pour développer quelques points de nos propositions.
Pour notre équipe, la culture doit se faire, la mairie, pardon, doit se faire catalyseur d'initiatives et projets culturels. Ça veut dire qu'elle peut les susciter, les peut nourrir, développer et surtout communiquer. Nous avons pour cela deux tendances. Une tendance de collaboration avec tout l'aspect culturel qui entoure les villages de Montpérou. Il est fait par des acteurs très importants, très dynamiques. Mon Pérou a déjà collaboré assez avec ces acteurs. On veut que ces liens deviennent encore plus forts, plus intéressants, plus curieux. De l'autre côté, on pense vraiment qu'il faut se concentrer sur les initiatives locales, propres au village de Mon Pérou. Nous avons envie d'aller vers les quartiers, vers les habitants des quartiers historiques, qui ont un patrimoine assez remarquable, mais pas que. Vers aussi les nouveaux quartiers avec des habitants qui peut-être viennent d'arriver dans les villages et qui n'osent pas s'approprier des initiatives associatives d'emblée. On a envie de collaborer avec les associations qui font à Mon Pérou un travail incroyable. On a envie par contre de les faire rencontrer autour de deux projets qui peuvent être vraiment très forts et qui peuvent comme ça se développer avec beaucoup d'intérêt. On a envie de frapper à la porte des maisons d'artistes de Mon Pérou, des artisans de Mon Pérou. Ils sont en partie présents ce soir. On a envie donc d'organiser une journée, pourquoi pas atelier ouvert, pour aller vers la culture d'une façon très simple, très directe et d'une façon très participative. On a pour cela besoin d'investir les patrimoines de Mon Pérou tout le long de l'année, pas seulement pendant les journées dédiées au patrimoine. On pense qu'un village irrigué d'initiatives culturelles simples, sincères, devient attractif pour les amis touristes qui viennent visiter Mon Pérou. Et que comme ça, ils peuvent le découvrir en harmonie avec les habitants. Ce programme, il est un petit peu ambitieux, pas tellement en termes économiques, mais on a besoin d'énergie. Et quand on a besoin d'énergie, on interpelle la jeunesse. Et c'est pour ça que je passe la parole à Gabi.
Alors, nous pensons qu'il est important que les jeunes s'approprient la culture en Pérou pour qu'ils aient une place au sein du village. Et c'est pourquoi nous avons la volonté de créer un pont, un véritable pont entre les jeunes et la culture. Et donc nous proposons d'ouvrir une salle dédiée aux jeunes, un lieu spécifique pour que les jeunes puissent se rencontrer et exprimer leurs talents. Et en parallèle, proposer une formation adéquate et diversifiée en faisant appel aux artistes, aux artisans, en organisant des ateliers. On peut aussi faire appel à des artisans locaux. Je pense notamment à Saint-Jean-de-Fosse, peut-être des cours de poterie dans cette salle. Plein d'exemples me viennent en tête. Et nous voulons aussi oser créer une scène ouverte avec cette salle pour faire des événements de théâtre dans la rue, n'importe quel endroit de Mon Pérou. Mais... Donc, je vais développer un aspect qui m'est un peu cher parce que j'ai fait des études de cinéma et donc ça sera le cinéma. Et je voudrais... engager et soutenir un partenariat avec une association de services civiques cinéma que j'ai fait pendant un an, donc c'est gratuit. Ils peuvent intervenir à l'école, présenter des films et débattre sur les sujets du film et les sujets de société avec les élèves. Ensuite, organiser des projections de courts-métrages dans la future médiathèque ou lors des fêtes nationales du cours qui là malheureusement tombe fin mars et avec, vous savez tous le contexte, ce ne sera pas possible, ou des projections pendant les périodes estivales dans les rues et dans tous les quartiers de Mon Pérou. Et il nous semblerait important de faire intervenir des professionnels pour des stages, des formations et des rencontres autour du cinéma, notamment aussi de toutes les formes d'art ou d'artisanat.
La mairie ne peut pas tout soutenir, mais pour nous, elle peut aider à développer toute envie et besoin culturel pour les villages. Merci.
Merci beaucoup. Nous en arrivons à la partie pour une ouverture au questionnement de ce monde. Pourquoi cette partie ? Parce que nous vivons dans un village merveilleux. Mon Pérou, beaucoup de gens nous l'envient. Hein. Pour ceux qui travaillent à Montpellier, quand on dit qu'on vit là-bas, on nous dit deux choses, c'est magnifique et il y a du bon vin. Le fait est que le village de Montpérou, pour magnifique qu'il soit, ce n'est pas le village d'Astérix qui résiste aux Romains grâce à des palissades. Et lorsque l'économie américaine tousse, c'est nous qui avons de la fièvre. Et le problème de tout ceci, c'est qu'effectivement, il nous faut prendre en compte ce qui se passe dans le monde, avoir les moyens d'y réfléchir. Et j'ai promis de ne pas citer de médias, mais ne pas se cantonner à quelques médias qui traitent l'international en 12 secondes en fin de journal. Pour cela, donc, nous avons une stratégie. D'abord, réhabiliter le plus noble des gros mots, le mot politique. Aujourd'hui, quand on parle de politique, et surtout aux jeunes, je le vois avec mes étudiants, la politique, ce sont les politiciens, c'est quelque chose qui est inabordable, c'est chacun pour soi, c'est la zizanie, c'est la dispute. Non. La politique, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est ce que fait toute mairie lorsqu'elle fait un choix. Si on fait un choix d'investir à tel endroit plutôt qu'à tel autre, pardon, on fait de la politique. Si on choisit de mettre en avant le social, on fait de la politique. Donc réhabiliter le débat politique. Le débat politique n'est pas nocif. Par contre, si nous ne nous l'approprions pas, rassurez-vous, d'autres se l'approprieront pour nous. Pour ce faire, quelques éléments clés. D'abord, nous souhaitons, et nous le ferons de toute façon, organiser des conférences-débats autour des grands problèmes de ce monde. Nous avons subi, pour certains d'entre nous, le Brexit. Il y a le coronavirus, bien sûr, qui est tristement dans l'actualité. Il y a, pardonnez-moi, j'ai écouté les chiffres hier pendant un moment, le Nasdaq est tombé de 17%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout, sauf que dans 3 mois, ça va se répercuter ici, directement sur nos feuilles de paye. Faire venir des spécialistes, des personnes compétentes qui nous expliqueront les enjeux du monde. On en a suffisamment qui sont prêts, que ce soit la crise des migrants, que ce soit la crise de l'Europe, que ce soit des crises économiques, pour que nous ayons toutes et tous les clés pour comprendre. Et pas simplement des petites brèves éparses par-ci et par-là. Et s'ouvrir au monde, c'est aussi, à nos yeux, faire quelque chose qui se fait en Europe depuis des décennies, depuis pratiquement de suite après la guerre, c'est faire des jumelages. Alors nous en avons eu à Montpérou, malheureusement il s'est délité, peut-être par manque de volontaires, je ne sais pas, mais relancer cette dynamique de jumelage, ouvrir notre village aux autres villages, européens certes, ça se fait partout. Si vous allez à Montpellier et que vous ne prenez pas l'autoroute, vous allez traverser combien de villages où il y a marqué tel village jumelé avec en Écosse, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Pourquoi nous ne pourrions-nous pas faire ça? Ce n'est pas très compliqué. Mais nous irons même au-delà de l'Europe, parce qu'il y a un continent qui est le continent dont tout le monde sait que c'est le continent qui va connaître la plus grande croissance au XXIe siècle, et c'est l'Afrique. Et nous regardons l'Afrique de loin, avec nos préjugés, avec des remarques que l'on entend sur l'homme africain qui a manqué son rendez-vous avec l'histoire, etc. Non, nous pouvons aller à la rencontre de ces villages, ils ont beaucoup à nous apprendre, donc nous proposons aussi un jumelage avec un village africain. Tout ceci, bien évidemment, dans une volonté d'avoir des clés pour comprendre les enjeux d'avenir. Alors, évidemment, la dernière proposition que vous voyez ici, elle peut paraître anecdotique, et pourtant elle ne l'est pas tant que ça, parce que même à l'heure d'Internet, savoir s'informer avec des médias qui ont une ligne éditoriale, c'est-à-dire qui sont rédigés par des gens responsables, qui savent ce qu'ils écrivent, et qui en sont responsables si jamais ils écrivent des bêtises, eh bien, tout le monde ne peut pas se l'offrir, ou on peut s'offrir un abonnement par-ci, un abonnement par-là. Ce que nous proposons, c'est que la mairie propose aux Montpérousiens, à travers un abonnement qui sera mis à disposition à la médiathèque ou dans un lieu tiers lorsque la médiathèque est fermée, un éventail de journaux et de périodiques, de diverses opinions, afin que tout un chacun puisse avoir les clés du monde et de l'actualité de manière pondérée, et non pas simplement des petits mots qui circulent à droite à gauche. Enfin, un projet qui tient à cœur, justement parce que l'Europe connaît une grande crise. Nous avons vécu tous le Brexit. Tout le monde se demande quel va être le prochain pays. Est-ce que l'Europe va résister? L'Europe ceci, l'Europe cela, l'Europe Bruxelles, l'Europe des technocrates. Non, l'Europe c'est aussi autre chose. Quand le général de Gaulle, Monet, Schuman ont décidé de créer l'Europe, ce n'était pas pour créer l'euro ou des taux, des seuils de taxes financières ou les 3% du déficit. C'était autre chose, c'était le rapprochement des peuples. Et ce rapprochement des peuples, il y a quelque chose de très simple à faire qui ne coûte quasiment rien. C'est tout simplement, nous avons à Montpellier, dans nos universités, un vivier d'étudiants du monde entier. Eh bien, tout simplement, une fois par an, inviter deux étudiants de chaque pays européen, plus deux pays invités, on organise une journée de l'Europe, trois tables, trois thèmes, les papilles, parce qu'on aime bien manger quand même, la littérature, la musique, et nous allons à la rencontre de ces gens, nous les découvrons, nous découvrons des pays, j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai encore beaucoup de pays à découvrir, eh bien on les rencontre avec des gens, en plus avec des jeunes qui sont venus ici, qui parlent notre langue, qui sont venus s'intéresser à notre pays, à notre région. Je crois qu'on ne trouvera pas de meilleurs ambassadeurs pour ça. Voilà pour la partie ouverture au monde. Nous en arrivons à l'écologie inventive et réaliste. Et c'est Lucie qui en a la lourde charge.
Alors, les mots écologie, le mot environnement, de nos jours, ils sont dans toutes les bouches. Ils sont récupérés par les partis politiques, les associations, les mairies, les institutions. Ici, à Montpérou, nous avons décidé d'y habiter, d'y vivre, dans ce cadre privilégié. Notre village, il est entouré de nature, il est au cœur de l'environnement. Donc la question aujourd'hui, c'est comment préserver cet environnement. Avec des grosses problématiques, c'est notre empreinte carbone, avec nos émissions de gaz à effet de serre, notre gestion de nos déchets. Et la deuxième grosse problématique, c'est le dérèglement climatique. Il existe des solutions durables, des solutions réalistes, mais il faut penser l'écologie de manière transversale. Il faut la penser à travers tous les axes qu'on a déjà évoqués. Je pense à l'économie, à l'éducation, au social, au politique, à l'urbanisme. Quand je dis solutions, ce n'est pas forcément des solutions coûteuses. C'est même des solutions qui visent à nous faire économiser de l'argent. Là, pour prendre la première problématique avec l'empreinte carbone, ici à Montpérou, pour faire des solutions locales, on a pensé à un pédibus pour les écoliers du village. Le pédibus, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accompagnement par des bénévoles, donc ça peut être des parents, mais ça peut être papy, mamie, nos anciens, qui accompagnent les enfants à l'école à pied. À pied, ça veut dire moins de voitures aux abords de l'école, donc moins de pollution, ça veut dire moins de petits embouteillages, on reste un village, mais ça veut dire donc plus de sécurité, c'est aussi plus de liens intergénérationnels, c'est aussi plus de responsabilisation des enfants pour leur donner les bons gestes, les bons réflexes de piéton, mais aussi de futurs éco-citoyens. Notre deuxième proposition, c'est une plateforme, un système de covoiturage. Nous sommes nombreux actifs à travailler en dehors du village, à aller sur Montpellier, à aller dans d'autres villes, le samedi à aller au marché de Gignac. C'est trouver un système de mutualisation en fait, de nos moyens de transport pour pouvoir réduire notre pollution et réduire nos coûts en partageant les frais d'utilisation. Troisième point aussi qui me tient à cœur, c'est la sensibilisation à la réduction de nos déchets, au gaspillage alimentaire. Aujourd'hui en France, entre 20 et 30 kilos, entre 20 et 30 kilos par an et par habitant, dont 7 kilos qui sont encore emballés. Ça, c'est des chiffres que vous pourrez trouver à l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il faut sensibiliser, il faut informer et trouver des solutions concrètes à apporter. Pour faire une transition avec la deuxième grosse problématique, on a le problème de la biodiversité. En fait, on se rend compte qu'on a une réduction massive de la population végétale et de la population animale ces 30-40 dernières années. Il faut faire revenir les oiseaux, il faut faire revenir les insectes. Pour cela, ça a déjà commencé, ça a déjà démarré, Mais il faut faire revenir les haies aux abords des parcelles. Il faut replanter des arbres isolés pour faire revenir les oiseaux. Faire de l'emmerdement partiel pour ne pas faire de la concurrence à la vigne, mais ramener les insectes rampants. Ça, c'est le côté biodiversité. Dans le dérèglement climatique, on parle des ressources. L'eau, c'est, ça devient une ressource rare, en fait. Et il faut la préserver, il faut ne pas la gaspiller. Donc, nous, on aimerait sensibiliser, on aimerait soutenir et accompagner les habitants du village qui souhaitent s'équiper, en fait, en récupérateur d'eau de pluie. C'est un outil qui est écologique, qui est économique, qui est pratique, qui est facile d'installation et qui est facile d'entretien. Dans le même état d'esprit, on veut du coup soutenir les habitants qui veulent s'équiper en panneaux photovoltaïques. Faire peut-être, comme disait Isabella tout à l'heure, être catalyseur. être catalyseur en fait des entreprises, de l'information, pouvoir amener ça au Montpellierien. Je parlais de l'eau, je parle de notre région qui est une région qui toute la saison estivale subit des grandes sécheresses et on a un fort taux d'incendie. On a la chance sur Montpérou d'avoir un comité communal des feux de forêt. Il est dynamique, il est mené par Charles Henry et il faut continuer de soutenir ce comité et aussi lui donner plus de visibilité pour permettre aux Montpérousiens qui le souhaitent de rejoindre et de gonfler du coup le rang des bénévoles. Il faut soutenir également ses actions. Cette année, sur la semaine de l'environnement, il a eu une action de prévention, de sensibilisation des collégiens de Gignac. Il faut amener ces actions-là dans le village, il faut continuer à prévenir sur les risques incendies. Cet été, il y a eu un incendie, parce que des fois c'est juste du domestique auprès des enfants, c'est un feu d'artifice qui est parti et qui a brûlé la commune à côté. Enfin, je voulais parler des jardins partagés. C'est, on a eu une vraie demande, en fait, un vrai retour de Montpérousiens qui souhaitent avoir un jardin partagé. Le jardin, c'est un espace qui est conçu, qui est construit, qui est cultivé par les habitants. Pour moi, ça, c'est un peu un symbole de ce qu'on vient de tout ce dont on vient de parler, en fait. C'est un symbole d'écologie, mais également de convivialité, de solidarité, de partage, de lien, de partage de culture, de partage entre les générations. Et il y a plein d'idées en fait, il y a plein d'envie, il y a plein de motivation parce que c'est un sujet où il y a beaucoup à faire. Je vais conclure par dire qu'aujourd'hui, ne pas prendre en compte les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, c'est... impensable. On n'a qu'une seule planète, on n'a qu'un seul Montpérou, 34 150, il ne faut pas fermer les yeux. En fait, ensemble, le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire.
Merci beaucoup Lucie, et vous allez croire qu'on l'a répété, mais pas du tout, c'est une transition parfaite vers l'axe suivant, qui est celui d'une économie d'avenir. Alors là, on va parler un petit peu sous, et puis en général, quand c'est les mauvaises, les choses un petit peu qui dérangent, eh bien, je me suis proposé de m'y coller. Donc, parlons de l'économie d'aujourd'hui, l'état économique du village de Montpérou, les finances de Montpérou. Alors, il est coutume de dire qu'elles sont dans un état catastrophique, etc. Pas du tout. Elles vont très bien, merci. Nous avons effectivement des taux de capacité d'autofinancement qui sont supérieurs à ceux des villages de la même tranche que Montpérou. Nous avons un budget de fonctionnement qui tourne bon an mal an entre 1,4 et 1,2 millions d'euros, qui est excédentaire la plupart du temps aux alentours de 200-300 000 euros, ça dépend des années. un budget d'investissement de près de 1,8 million, là aussi, bon an, mal an. Cela dit, ce sont des budgets. En fait, le résultat comptable est un peu plus bas et on tourne en général autour de 2 millions d'euros qui représentent l'argent qui circule. Donc, Bon Pérou a une très forte capacité d'autofinancement. C'est très bien, on est aux alentours de 27% alors que d'autres, 27-28% alors que d'autres villages sont à 22%. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ça veut dire tout simplement qu'on a suffisamment de réserves. Alors, c'est très bien, j'émets juste une petite réserve, c'est que l'argent public n'est pas fait pour dormir. Et ça, c'est inscrit dans la loi des finances, dans la LOLF 2001, vous pouvez vérifier. L'argent public est là pour circuler et pour servir. Alors, il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes, ou comme disait Malraux, Langue 80, que l'argent coule à flot, pas du tout, mais nous avons quand même une certaine marge de manœuvre sans mettre en danger d'aucune façon les finances du village. Ça, c'est très clair, et tous les points du programme, j'exclus pour l'instant la rénovation de l'école, mais qui, elle, relève de la partie investissement, tous les points du programme ont été chiffrés et peuvent être mis en place sans mettre en danger les finances de la commune. Si nous ne faisons qu'ajuster notre capacité d'autofinancement à celle des villages moyens entre 500 et 2500 habitants, nous avons déjà le financement de la cantine bio pour tous les élèves. Donc ça, c'est un fait acquis. Cela dit, Lucie a parlé changement climatique, Lucie a évoqué les problèmes écologiques, et effectivement, nous avons l'industrie phare, l'économie phare de ce village, bien évidemment, celle qui lui donne sa renommée, qui est la viticulture. La viticulture qui est en train de franchir un nouveau cap avec le cru Montpérou, qui n'est plus qu'une question de 1, 2 ans, peut-être 3. On a longtemps attendu, mais maintenant, nous voyons enfin le bout du tunnel. Bien évidemment, continuer à soutenir cette démarche de toutes ses forces. La mairie le fait jusqu'à présent. Il est hors de question de changer ça. Nous allons le poursuivre, bien évidemment. Par contre, le vin d'aujourd'hui se vend très bien, le vin raisonné, le vin produit de façon traditionnelle, et nous avons un petit peu de vin bio. Et le vin bio, c'est difficile à produire, c'est aujourd'hui un plus. Quand je vais dans un magasin, je prends un vin bio, c'est un plus. Demain, ce ne sera plus un plus, ce sera une exigence. Ça fait 30 ans qu'on le dit, maintenant, c'est à notre porte. Dans 10 ans, 20 ans, un vin qui n'est pas bio ne se vendra pas. Il faut en être conscient. Donc, que faire? Forcer tout le monde à basculer dans le bio, ce serait catastrophique et contre-productif. Par contre, inciter ceux qui y réfléchissent, en les accompagnant avec des experts qui viendront les seconder, leur donner un coup de main financier, on peut le faire. On a des petits leviers qui sont compatibles avec les lois anti-subvention, etc. On a des leviers, notamment un levier qui est très simple, c'est celui du foncier non bâti, c'est-à-dire faire un dégrèvement sur la taxe du foncier non bâti pour quelqu'un qui voudrait investir dans la conversion au bio. Donc accompagner ceux qui veulent le faire pour préparer cette économie d'avenir. Parce que le vin traditionnel, dans 20 ans, et si je suis encore là dans 20 ans, je suis prêt à me présenter devant vous, ne se vendra quasiment plus. Ensuite, nous avons un autre enjeu d'avenir en ce siècle, qui a déjà été évoqué, c'est celui de l'eau. Or, au niveau de l'eau, nous le savons d'ailleurs que ce dossier est important, l'État nous a obligés à interconnecter tous nos systèmes d'assainissement et d'adduction d'eau, de manière à pouvoir gérer les stress hydriques à tel ou tel endroit. On sait que c'est l'enjeu clé du XXIe siècle pour nos régions. Nous avons une belle endormie. Cette belle endormie, c'est la vitale. C'est une eau qui est connue depuis l'Antiquité, qui a été commercialisée pendant quelques années, dont la commercialisation s'est arrêtée suite à un incident technique qui a été beaucoup commenté. Reprendre ce dossier. Nous avons là quelque chose qui est extraordinairement riche, qui peut apporter à Montpérou des ressources financières conséquentes. Pourquoi ne pas rouvrir le dossier? Je ne dis pas que c'est gagné, mais reprenons le dossier à bras le corps, essayons de voir, battons-nous pour obtenir des financements, peut-être pour un réaménagement. On sait se battre pour des dossiers, on a l'habitude. Battons-nous pour cette source qui vaut vraiment la peine d'être sauvée. Enfin, un dernier point, je vais être beaucoup plus rapide, mais nous avons parlé du changement climatique. Changement, qui dit changement climatique dit, bien évidemment, en ce moment, chez nous, épisode de chaleur. Alors nous avons, bien évidemment, à côté de la vigne, quelques arbres fruitiers, etc. Mais là aussi, sans vouloir trop me tromper, je pense que l'avenir à Montpérou, ce n'est pas la plantation de la couette ou des groseilles. On le sait très bien. Par contre, à Montpérou, nous avons une petite économie qui est une économie d'appoint. Elle représente une part relativement faible dans les revenus des Montpérousiens et notamment des viticulteurs, qui est l'oléiculture. Or, l'olivier, c'est un arbre qui, je ne vous l'apprendrai pas, surtout moi qui ai débarqué à Montpérou d'un pays très nordique, c'est un arbre qui résiste très bien à la chaleur. Alors, pourquoi ne pas essayer de développer l'oléiculture à une heure où nous achetons, la France importe 90% de son huile d'olive, 95% des olives de bouche. On a un marché qui, pour l'instant, est un marché de niche qu'on peut développer. Alors là aussi, comment ? Des solutions très simples. La mutualisation du matériel. La récolte des olives, c'est quelque chose de très fatigant, de très fastidieux. Si on mutualise un matériel de récolte et qu'on le met comme ça se fait déjà pour la vigne, là, la mairie peut être force de proposition, force de soutien. Et encore une fois, pour aller chercher les financements, rassurez-vous, nous avons deux personnes qui travailleront uniquement sur la recherche de financement, enfin, essentiellement, pas uniquement, essentiellement sur la recherche de financement. Et je vous garantis, on sait ce qu'on fait. Nous en arrivons au sujet suivant, qui est celui de la sécurité repensée en solidarité.
Beaucoup de choses, elle a dit, après on passera aux questions à la fin, hein, on l'a pas précisé, mais voilà. Donc, se sentir en sécurité, on le sait, c'est essentiel pour chacun de nous. Nous avons réfléchi au sentiment de sécurité. Et nous avons pensé qu'en fait, ce sentiment de sécurité, il s'appuie en fait sur le fait de ne pas se sentir isolé, donc le fait de se sentir entouré. Le sentiment de sécurité, il s'appuie aussi sur le fait de pouvoir compter sur un environnement propre et tranquille, ou encore sur le fait de pouvoir se déplacer sans danger sur la vie, sur la voie publique, pardon. Donc, ces trois éléments, se sentir entouré, l'environnement, et puis ne pas être en danger sur la route, participent en fait à se sentir en sécurité. Donc voici nos propositions pour une sécurité donc, que nous avons pensé aussi en solidarité dans ce bien-vivre ensemble dont nous parlons depuis le début. Ben, je crois que Félix, tu vas commencer par le premier thème.
Je suis désolé de m'imposer à nouveau. Oui, donc c'est la question du recrutement d'un garde champêtre. Effectivement, nous n'avons plus de garde champêtre à Montpérou. Or, la fonction principale et l'avantage du garde champêtre, c'est ce qu'ils ont essayé de copier à la ville, d'ailleurs avec la police de proximité, c'est que c'est quelqu'un qui ne représente pas une autorité immédiatement répressive, qui ne représente absolument pas ce côté-là, mais qui est souvent, la plupart du temps, un médiateur. Quelqu'un qui, en fait, détricote les tensions avant qu'elles ne se solidifient. Et c'est une fonction très, très particulière. Il est doté de pouvoirs de police, comme il peut verbaliser, il peut notamment verbaliser, c'est une de ses grandes missions, les décharges sauvages, vous savez, les déchets que l'on retrouve. Le garde a tout à fait ce droit de police-là, mais la fonction du garde champêtre, c'est aussi, et là on rejoint toujours cet axe social, le côté médiateur, et il sait nouer un contact avec les jeunes, ce qui est beaucoup plus difficile lorsque des policiers de l'extérieur viennent et qu'ils sont perçus par les jeunes de manière différente. Et là, effectivement, c'est un des pignons autour desquels tourne la sécurité à Montpérou.
Alors, ensuite, ça reprend toujours la même idée, hein. Plus on se sent proche et solidaire, plus ce sentiment de sécurité pourra se développer. Donc, on propose de s'appuyer sur les personnes de ressources dont je vous ai parlé au tout début dans les quartiers, parce que c'est vrai que se sentir entouré, c'est se sentir reconnu, donc ça veut dire que les uns les autres, il y a un regard aussi sur le voisin, sur ce qui se passe, pas un regard pour dénoncer quoi que ce soit, mais pour être ensemble et se sentir bien et en sécurité. Également, on propose en fait que les jeunes soient associés à cette lutte contre l'insécurité, on va dire, et en même temps, cela pourrait permettre aussi une action intéressante puisque les jeunes pourraient lutter contre l'isolement des anciens. Les jeunes qui sont intéressés pourraient en fait passer dans les quartiers ou passer chez l'habitant. Voilà, on pourrait faire un petit réseau comme ça entre les jeunes et les anciens. Un autre point important dont on nous a beaucoup parlé le jour là où nous avons rencontré les gens du village, expliqué notre démarche, c'est la sécurité des piétons. Donc c'est vraiment pour nous un axe prioritaire hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas possible en fait, je pense notamment aux personnes âgées ou aux enfants, de craindre tout simplement de sortir de chez soi, craindre donc d'être renversé par une voiture. Et je vous assure, bon moi je vis sur la Méliade, mais c'est impressionnant les voitures qui vont à 60, enfin c'est impressionnant les gens qui traversent le village très vite. Donc nous proposons des ralentisseurs dans tous les quartiers, des panneaux de signalisation beaucoup plus incitatifs et des feux indicateurs de vitesse. Et nous pensons que notre village doit clairement annoncer que la traversée d'un village, eh bien, c'est ralentir. Et donc, il faut absolument qu'on trouve le moyen d'annoncer que le village, eh bien, c'est respecter les piétons. On n'ira pas jusqu'à dire que le piéton est prioritaire, parce qu'évidemment, enfin, on peut le dire comme ça, mais évidemment que les véhicules continueront de passer dans Montpérou. Mais il nous semble que justement, les gens doivent être bien à Montpérou, les enfants doivent pouvoir aussi sortir dans la rue, hein, bien entendu, en faisant attention eux-mêmes. Hein. Il ne s'agit pas non plus de penser qu'on va tout régler. Il y a une question aussi d'apprentissage de ce qu'est la sécurité aux enfants, mais simplement, vraiment, pointer du doigt que, ben, voilà, il faut ralentir dans le village. Trouver le moyen, parce que ça, vraiment, ça a beaucoup parlé. Voilà.
Et enfin, le dernier point, il est lié à ce que nous venons de dire, et notamment le sentiment de sécurité ou d'insécurité, et parfois, rien que le fait de savoir ce qui risque de se passer, de savoir comment éviter certaines situations dangereuses, je ne parle pas nécessairement de situations conflictuelles, mais des accidents, etc., ça peut être quelque chose de très profitable. En tant que village, Montpérou, nous dépendons de la gendarmerie nationale pour ce qui concerne les forces de l'ordre. Or, il se trouve que la gendarmerie nationale comporte d'excellents formateurs de prévention au risque. De risques de toutes sortes. Ça peut aller de la drogue jusqu'aux accidents domestiques. Ils ont des formateurs excellents pour ça. Faire un partenariat avec la gendarmerie, notamment de Gignac, mais aussi l'étage au-dessus, excusez-moi, je n'ai plus le terme, j'ai un blanc, c'est effectivement donner aussi aux personnes des clés pour éviter certaines situations qui peuvent être évitées très facilement. Et rien que le fait de savoir ça, déjà, c'est quelque chose qui rassérène et qui donne un peu plus de sérénité. Et l'idée, elle est là, c'est de savoir pour ne pas avoir peur, ou en tout cas, moins avoir peur. Voilà pour la partie sécurité. Nous en arrivons donc à un urbanisme qui respecte l'identité du village, et c'est à nouveau Manuel qui va avoir l'honneur de vous le présenter.
Alors, pour laisser le temps aux questions, je vais être bref sur ce dernier axe. Alors, il ne figure pas sur le tract, mais j'en profite peut-être pour préciser que tous les points que nous avons développés ce soir sont développés sur le site de notre liste, et en particulier les points qui concernent l'urbanisme. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'une des grandes richesses de Montpérou, c'est sa relation au paysage. Alors, l'enjeu, c'est de savoir comment préserver et valoriser cette richesse. Eh bien, en limitant l'étalement urbain dans le paysage, en exploitant les dents creuses, en construisant dans les dents creuses, c'est-à-dire dans les parties à l'intérieur de la périphérie actuelle du village, et en mettant au centre le piéton. Alors, vous le savez, il y a le projet de construire un nouveau stade en synthétique à la périphérie du village. Et alors, nous pensons que ce projet doit être abandonné. Pourquoi ? Parce que construire un stade en synthétique, c'est extrêmement coûteux et non écologique. Et aussi, surtout, parce que, et ça rejoint ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, mettre un stade en périphérie, c'est faire en sorte qu'il ne devient plus accessible à tous, et en particulier aux écoliers. Au lieu de cela, nous souhaitons simplement rénover le stade actuel, et en particulier poursuivre la rénovation de la pelouse, qui est quand même l'élément principal. Donc, il y a une rénovation qui a été amorcée. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il faut redimensionner le stade? Est-ce qu'il faut construire une petite tribune? Alors, c'est des questions que nous proposons de soumettre au débat. Par ailleurs, comme vous le savez, vous devriez le savoir, le PLU adopté l'année passée prévoit la construction d'un nouveau quartier dans le prolongement de la BIS, quartier avec 40 logements, et nous proposons de le rediscuter, de le soumettre également au débat public. Alors, pour nous, si un nouveau quartier devait être construit, il nous paraît du moins essentiel que celui-ci ait des dimensions qui soient contenues, limitées, et de le penser comme un éco-quartier, c'est-à-dire essentiellement de respecter des normes importantes au niveau de l'isolation thermique notamment, et d'intégrer de façon harmonieuse des jardins et de la végétation. Alors je serai bref sur les deux derniers points. Nous avons à cœur aussi de valoriser le patrimoine bâti en soutenant les rénovations et d'entretenir de manière régulière les sentiers et les chemins pour donner toute sa place aux promeneurs et aux randonneurs. En définitive, nous souhaitons que Montpérou reste véritablement un village. Nous vous remercions.
Merci beaucoup. Donc voici pour la fin de l'exposé. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous répondre.
Je vais pas prendre une question. C'est pas une question, c'est une remarque. Est-ce que sur la gouvernance partagée, dans les Chines et la commune de Saillant,
oui, donc la commune de Saillant, une commune dans la Drôme, qui a fait un choix très radical de basculer dans une démocratie participative, vraiment dans le cœur même du fonctionnement de la municipalité, c'est-à-dire que finalement l'équipe municipale devient juste le médiateur de décisions qui se prennent à tous les niveaux de manière collective dans tout le village. Alors c'est pas exactement ça que nous on vous propose, en quelque sorte on propose d'entrer en douceur. Alors, la question de savoir si on bascule là-dedans, je pense qu'elle est bonne. L'idée, c'est, ben, c'est que les élus gardent finalement la décision finale, mais que cette décision soit éclairée sur la base des points de vue et des arguments, surtout, de tous les habitants. Et que si, au terme d'une délibération qui fait ressortir une option comme étant celle qui a la majorité au niveau de la population et que la mairie choisit autre chose, il faudrait que ce soit vraiment sur la base de l'argumentation, ça ne peut pas être de manière arbitraire. Donc ça doit être discuté.
Une autre question ?
Bonsoir, je voudrais revenir sur la question de la sécurité dont vous parliez tout à l'heure, concernant les piétons et tout ce qui s'ensuit. Ça concerne les vélos, ça concerne les voitures, mais je tiens à dire que j'habite dans un quartier, ça fait 40 ans, et il serait très bon pour les jeunes qui travaillent à l'école, Montpérou, de faire des réunions de parents d'élèves et de leur expliquer le code de la route. Vous savez pourquoi ? Moi, j'aurais une très bonne idée, c'est d'installer un flash radar en haut de la rue des Plots et à l'angle du cimetière. On aurait en gros 20 flashs par jour, le matin et l'après-midi. Parce que le nombre de parents d'élèves qui grillent les stocks, les mamans qui arrivent au stock avec le portable et qui tournent sec.
Ça fait d'accord avec vous, hein.
C'est
pas de catégorie.
Mais c'est pour ça que le pédibus, ça serait bien même sous la pluie. Hein. Merci.
C'est vrai. Merci de votre contribution. D'insister sur ce point, merci. Bonsoir à tous. Je suis Madame Ravier, j'habite au Barry depuis 22 ans, mais mon mari est originaire de Montpérou, par contre, moi de Montpellier. Voilà, ma question pose sur l'urbanisme. La question, c'est par rapport au Barry, le quartier du Barry, parce que nous sommes en zone rouge. Il y a 22 ans de ça, on avait une réunion à Saint-Guilain-de-Désert pour nous préciser tout ce qui pourrait être fait, car il y a deux rivières qui descendent sur le Barry, et je ne sais plus en quelle année mon mari pourrait... Enfin, les anciens peuvent s'en souvenir. Il y a eu des grosses inondations et ça a été quand même assez impressionnant au niveau du Barry. Donc depuis 22 ans, on nous dit que la mairie va s'en occuper. Maintenant, comme tout ce qui est la voirie, c'est parti à l'intercommune, l'intercommunalité. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui est prévu pour ce quartier au niveau du risque d'inondation, parce que quand on voit tout ce qui se passe au niveau climatique, c'est quand même inquiétant. Et la deuxième question aussi, c'était l'état de la route. Parce que nous, au Barry, c'est la publicité Orangina, Orangina, et on est bien secoué dans les voitures. Hein. Et même si on est en première. Voilà. Donc, moi, je veux bien, on nous dit qu'il faut attendre là aussi, parce qu'il va y avoir la fibre. Donc tous les câbles vont passer sous terre. Moi, je veux bien, mais depuis 22 ans qu'on y est, c'est de pire en pire. Voilà. Et puis aussi, sécurité. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de sécurité. Moi, je tiens à dire qu'au mois de janvier, nous avons un compteur commun pour tout ce qui est France Télécom. Eh ben, nous, on nous a sectionné notre câble de la Free. Donc pendant 4 jours, nous n'avons pas eu la Free. Pourquoi ? Parce que ce tableau, ben, il n'est pas fermé à clé. Voilà. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui est important aussi, c'est ce que vous disiez, la propreté. On n'a pas de poubelle. Tous les gens qui descendent du château ou qui font toutes les promenades, ben, quand ils voient des poubelles qui sont dehors, ben, ils ne se gênent pas, ils ne prennent pas, là aussi, ils ne ramènent pas leurs poubelles avec eux, ben, ils les mettent dans les poubelles des gens qui y habitent ou pas.
C'est vrai, c'est une vraie question, le tourisme avec justement l'augmentation des déchets. Je crois que Félix avait des chiffres là-dessus d'ailleurs. Effectivement, en période estivale, il y a une gestion des déchets qui est, on n'y pense pas toujours, mais qui est effectivement... encore plus importante et on pensait justement pouvoir aussi dire c'est très bien d'avoir des touristes à Montpérou bien sûr, mais effectivement respectueux aussi des gens qui habitent toute l'année là et voilà donc.
Oui, effectivement ce que dit Françoise est absolument vrai. Les chiffres de la CCVH publiés par la CCVH montrent que nous avons un fléchissement très net des déchets recyclables au mois de juillet août sur la vallée de l'Hérault et qui s'accompagne d'une explosion des déchets non recyclables, c'est-à-dire du tout venant. Alors ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Lorsque les gens sont en vacances, en général, on a tendance à perdre sur son lieu de vacances les bons réflexes qu'on aime bien garder à la maison. Donc sensibiliser à ce niveau-là nous paraît effectivement quelque chose d'important avant que de démultiplier encore l'attrait touristique du village, qui est déjà extrêmement développé. Mais juste quelques chiffres, nous sommes à 194 kg de déchets résiduels par an et par habitant, et les chiffres de 2020 que nous sommes censés atteindre sont à 74 kg en dessous. Alors, à moins d'un coup de baguette magique, je ne vois pas comment on pourrait atteindre cet objectif en 2020. Par contre, se fixer une feuille de route sur 6 ans pour arriver à atteindre cet objectif, ça c'est faisable grâce à de la sensibilisation, grâce à de l'information et aussi peut-être grâce à la multiplication des endroits où l'on peut trier ses déchets.
Peut-être un... Non, j'allais dire un mot sur la question de la voirie. Évidemment, je pense comme tout usager, on est un petit peu victime des nid de poules et on constate que la voirie mérite d'être rénovée. Donc je pense que c'est aussi la volonté de l'autre liste que de s'investir là-dedans. Et ça va évidemment être une préoccupation forte que de tout mettre en œuvre pour rénover cette voirie. Je voulais juste souligner que pour notre part, ce qui nous paraît très important dans la rénovation de la voirie, c'est ce que j'indiquais rapidement tout à l'heure, c'est de donner vraiment toute sa place aux piétons. C'est-à-dire, c'est pas simplement mettre des gros trottoirs, etc. C'est d'envisager vraiment les chemins piétonniers comme des chemins où on va pouvoir marcher en toute sécurité et pouvoir profiter aussi de la végétation, donc d'avoir quelque chose qui soit végétalisé, d'avoir de ménager vraiment tous les points de vue. Il y a des chemins où on a des vues exceptionnelles à Montpérou, et donc ça va être pour nous une préoccupation très forte d'intégrer, de mettre au centre la conception, la rénovation de la voirie en tenant compte du piéton.
J'ai entendu que madame attend depuis 22 ans, donc effectivement, on peut quand même y réfléchir parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi tel ou tel chemin sont restaurés et pas d'autres. Je crois que là, il faut vraiment arriver à l'expliquer, à le justifier. Concernant l'histoire de la fibre, attendez, non, il y avait un point concernant les ruptures, non, le dernier point.
Non, c'était surtout sur
oui, voilà, ça c'était l'autre point plus important que j'ai gardé pour la fin. Voilà. Donc là, effectivement, je ne sais pas si Félix a besoin de réponse à ça, parce que moi je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est notre volonté d'écouter chaque quartier avec les problématiques. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, je crois que là, vous pourrez poser la question demain aussi. voilà. Mais là, au jour d'aujourd'hui, nous, on n'a pas tous les éléments de réponse pour voir ce qui a été fait. Mais en tout cas, c'est clair que dans chaque quartier, il faudra effectivement entendre les questions et y apporter, dans la mesure du possible, les réponses concernant le risque effectivement d'inondation. Je me souviens très bien de cet épisode il y a longtemps.
Alors, pardonnez-moi juste avant de poursuivre les questions, j'ai oublié de vous le dire au début. Vous avez vu, il y a une caméra qui enregistre, elle est focalisée sur l'équipe parce qu'on ne voulait pas vous filmer à votre insu. Par contre, si vous avez posé une question et que vous souhaitez que votre voix soit coupée, vous me le signalez et on le coupera parce qu'on veut le mettre en ligne, cet enregistrement, pour les personnes qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui à la réunion et qui souhaiteraient s'informer. Pour ce qui concerne la question de madame pour les inondations, alors je vais vous répondre deux choses. D'abord, je ne sais pas. Mais si nous sommes élus, revenez dans 3 mois et nous saurons vous répondre. La deuxième chose, c'est que la commune de Montpérou, comme toute collectivité locale, doit établir un plan de prévention des risques, et notamment des risques naturels, et que donc, je suppose, je n'ai pas été vérifié en mairie, que cette éventualité est mentionnée dans ce plan de prévention des risques. C'est une obligation pour toutes les communes et pour toutes les collectivités locales.
Je voulais rappeler aussi en termes de s'il y a des problèmes majeurs comme celui-ci qui sont sous-jacents et que les uns et les autres vous avez en tête ou que d'autres habitants ont en tête, eh bien, l'objectif des conseils de quartier qu'on a mentionné au début, c'est précisément pour identifier ensemble, donc c'est pas juste un particulier, mais c'est collectivement identifier ensemble les problèmes, les besoins, et que ensuite la municipalité s'en empare.
Je veux juste préciser que dès à présent, en fait, sur le site internet de Montpérou pour tous, vous pouvez vous inscrire et nous envoyer en fait des commentaires, des messages avec du coup vos problématiques. Et on pourra dès à présent y réfléchir.
Il y a d'autres questions ? Pardon, on t'entend pas en fait, si tu prends pas le micro, c'est dommage, on n'entend pas la question. C'est dommage de ne pas prendre la question.
Je dis que je suis très intéressée par l'ouverture mondiale, quelle que soit l'Amérique. Et j'espère que c'est un projet qui va arriver par ma culture aussi. Et pour les jardins partagés, pensez aux Zoya pour économiser l'eau.
Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va vous bousculer. Mais...
Juste s'il n'y a pas d'autres questions.
D'abord, je voudrais, juste pour finir, vous dire à quel point cette expérience de ce que nous venons de vivre en groupe a été très intéressant et enthousiasmant. Donc, moi, j'ai qu'une envie ce soir, c'est, j'espère, avoir partagé cet enthousiasme avec vous. Et notre volonté pour ce dimanche, en fait, déjà, c'est que les gens s'intéressent ou se réintéressent aussi au village. C'était notre intention en proposant une alternative à une seconde liste. C'était pas être contre pour être contre, on l'a dit dans la lettre, mais vraiment pouvoir, au contraire, élargir la table de la réflexion. C'est juste ça, notre intention. Et voilà, et c'est vraiment intéressant d'avoir pu travailler ensemble, rechercher, passer du temps, et pour moi ce n'est vraiment qu'un début, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, on va vous proposer de continuer peut-être la discussion de façon plus informelle. Alors, on va voir le verre de l'amitié pour ceux qui peuvent rester avec nous. On a dû malheureusement simplifier la formule par rapport au contexte sanitaire. On aurait voulu offrir un apéritif plus important, mais bon, on a réfléchi à, voilà, pouvoir vous servir un verre de vin ou quelques petites choses, mais en faisant attention à la question de l'hygiène et du côté sanitaire vu le contexte. Merci de votre présence, merci de vos questions. Ce n'est qu'un début. À bientôt.